Sophie Delpont.
On est souvent avec des profils de personnes qui ne sont pas à l'aise avec les adultes. Et ces personnes-là vont se retrouver beaucoup plus à l'aise avec les enfants, en fait.
Il y a des sujets pédophiles au point de vue fantasmatique qui n'ont soit jamais touché un enfant, soit qui, après un premier dérapage, vont s'en abstenir vitam aeternam.
Quand ils ont cette attirance figée, c'est problématique et ça, c'est une souffrance aussi pour eux. L'écoute est fondamentale.
Le huis clos des appartements et des chambres, 2 mois de confinement et l'exacerbation parfois des tensions dans les familles ou avec les proches. Conséquences pour l'instant impossibles à quantifier ou bien analyser de ce huis clos et le silence qui n'ont pas encore livré leurs secrets. Parmi les violences en sourdine, il y a la pédocriminalité et le combat des victimes. Prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre. Ce sont les mots de Vanessa Springora, éditrice devenue écrivaine pour dénoncer Gabriel Matzneff et la relation qu'il a entretenue avec elle alors qu'elle n'avait que 14 ans. L'écrivain, aujourd'hui âgé de 83 ans, avait dans plusieurs de ses œuvres pourtant, notamment dans son journal, détaillé en s'en vantant les relations sexuelles qu'il avait avec des adolescentes de moins de 15 ans et de jeunes garçons de 11 ou 12 ans en Asie. Il y a l'entraîneur de natation, les multiples scandales autour de prêtres pédophiles, en particulier l'affaire Prena, l'affaire Polanski, la polémique autour des Césars, le témoignage de l'actrice Adèle Haenel et son départ au moment du sacre du réalisateur. L'affaire de ce chirurgien aussi, soupçonné d'actes pédocriminels sur près de 350 enfants et adolescents. Où en est la loi ? L'âge du consentement ? Comment protéger les enfants et les adolescents? Comment se reconstruire après et comment empêcher les pédophiles de récidiver? Pédophilie, comment protéger les enfants? C'est un reportage signé Aurélie Kiefer et réalisé par Annie Bro. Deux invités pour ce grand reportage. Martine Brousse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'association La Voix de l'Enfant. Et bonjour Pierre Verdrager.
Bonjour.
Sociologue, auteur de « L'enfant interdit, comment la pédophilie est devenue scandaleuse ». Nous débattrons tout à l'heure des moyens de lutter contre la récidive des pédophiles et surtout pédocriminels et du contexte actuel à tous les niveaux de la société. Mais avant cela, Aurélie Kiefer, bonjour.
Bonjour.
Aurélie Kiefer, vous avez exploré plusieurs milieux où la pédocriminalité a pu œuvrer. Vous avez recueilli la parole des victimes et vous êtes arrivée à un constat. On peut difficilement dresser un portrait robot des auteurs d'actes pédophiles.
Oui, vous connaissez le cliché de l'inconnu qui offre des bonbons aux enfants. La réalité, c'est que les violences sexuelles sur mineurs sont d'abord commises au sein des familles. Et sinon, la plupart du temps, les auteurs sont connus. Ils font partie de l'entourage et on a généralement confiance en eux. Ces agresseurs viennent de tous les milieux, ce sont essentiellement des hommes, mais on ne peut vraiment pas établir de profil type. Certains sont exclusivement attirés par les enfants, mais on peut très bien passer à l'acte sans avoir de troubles pédophiliques. Et puis l'histoire personnelle n'explique pas tout. Beaucoup d'auteurs, on le sait, ont eux-mêmes été victimes de violences sexuelles ou de carences affectives dans l'enfance, mais bien sûr, toutes les victimes ne deviennent pas auteurs, il n'y a pas de fatalité.
Merci Aurélie Kiefer. On commence tout de suite avec la parole d'une jeune femme qui a été elle-même victime d'actes pédocriminels.
Bonjour, je m'appelle Amélie Declerc, j'ai 33 ans, je suis jeune maman et éducatrice spécialisée. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai commencé à subir des attouchements sexuels par mon voisin qui lui était plus âgé, qui a commencé à ses 16 ans, et ça a duré 2 ans, donc jusqu'à ses 18 ans, et ça a été déclaré comme viol, après en avoir discuté, enfin, avec ma famille, au bout de 9 ans.
Pourquoi ces 9 ans de silence ?
Parce qu'au départ, on se sent pas forcément victime de quelque chose. On sait qu'il y a quelque chose qui a été bizarre, à un moment dans notre enfance, quelque chose qui a pas fonctionné comme il fallait. Mais on ne sait pas trop ce que c'est jusqu'au jour où y a l'adolescence, il y a l'éducation, il y a l'école, il y a les copains. Et là, on nous raconte des histoires, on entend des choses et on se rend compte que c'était peut-être du viol en fait. Parce que même si on est jeune, ça reste des choses qu'on n'a pas désirées, des choses pour lesquelles on n'était pas consentant. Et moi, je n'étais pas consentante, mais je l'ai compris que plus tardivement. Et c'est vraiment sorti par surprise le jour où j'ai voulu faire un exposé sur la violence dans les cités. Mais j'ai voulu parler du viol et j'ai commencé à écrire un témoignage anonyme. Je me suis éloignée de l'ordinateur sur lequel j'écrivais ça et ma mère a lu ce récit et elle a tout de suite compris que ça parlait de moi. Et c'est à partir de ce moment-là que du coup les choses se sont enclenchées.
Au moment des faits, comment est-ce que vous perceviez les choses? Vous pensiez que c'était normal?
Alors très clairement, à 6 ans, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui est normal ou pas. Surtout quand la personne vous le présente comme étant un jeu, comme étant quelque chose de normal. On est happé par cet inconnu et finalement, ouais, cet effet de jeu. Et on se rend compte jusqu'où ça peut aller d'être un adulte, d'être plus âgé en tout cas, et de dire je vais te montrer comment font les grands. Et on a envie d'apprendre quand on est enfant comme ça. Donc non, on ne se rend pas compte que ce n'est pas bien. Et c'est ça qui est dangereux en fait. C'est parce qu'on ne sait pas. Il y avait comme du dégoût. Une fois qu'on rentre chez soi, on se sent pas bien. Mais on sait qu'il ne faut pas en parler parce que de toute façon, la personne nous dit « tu n'as pas intérêt à en parler ». Donc ça peut durer très longtemps, jusqu'au moment où soi-même on se dit « là, c'est pas normal, ça suffit ». Et parfois, il faut beaucoup de temps. Au bout d'un an, il y a quand même eu un moment où mon père s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'un peu bizarre. C'est un âge où j'ai commencé à ne plus vouloir me mettre nue devant lui pour aller à la douche ou pour prendre le bain. Je voulais plus qu'il me prenne dans ses bras comme il le faisait avant. Il y avait comme quelque chose de bizarre. Et là, il m'a clairement posé la question, à savoir qu'est-ce qui se passe. Je lui ai expliqué qu'il y avait des choses qui se passaient avec mon voisin. C'était quand même une personne à qui mes parents avaient fait confiance pour me prendre en babysitting de temps en temps. Donc là, il y a une espèce de prise de conscience à dire « Ouh, il y a quelque chose de pas normal, ce garçon a 16 ans, il joue à touche-pipi, comme on dit à l'époque, c'est pas normal, il faut que j'en parle aux parents. » Donc il en a parlé à ses parents, ma mère aussi, et là a été prise la décision qu'il n'y aurait plus de babysitting, qu'il ne fallait plus qu'on se croise, qu'il fallait qu'il fasse attention. Mais ça a quand même duré pendant un an ensuite, parce que moi, on m'a pas expliqué que c'était pas normal, on me l'avait pas clairement dit. Et donc ça a continué encore pendant un an et c'est... Je ne saurais pas trop dire ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, j'ai décidé que ça suffisait et je l'ai évité dans toute situation.
Donc c'est beaucoup plus tard que vous en avez réellement parlé.
C'est beaucoup plus tard que j'ai pris conscience du réel impact que cette histoire avait eu sur moi, sur ma construction personnelle et que je me suis mise à en pleurer, à en faire des cauchemars. C'est aussi quand j'ai voulu vivre une vraie relation amoureuse, que les garçons commencent à se poser des questions, à vouloir faire des choses quand on a 16 ans, 17 ans. Et là, il y a un truc qui n'est pas normal, parce qu'il y a un certain cap qu'on n'arrive pas à passer, un espèce de dégoût qui se passe. On entend parler de masturbation, moi j'avais jamais connu ça, enfin, même rien que l'idée m'était impossible, et il y avait des images qui me ressortaient, des images que je ressentais surtout, qui me rendaient vraiment pas bien dans mon être. Ouais. Je pense que c'était le point final pour moi, il fallait vraiment que ça sorte. Et c'est sorti, heureusement.
Donc là, quelle a été la suite?
Alors la suite, j'ai eu beaucoup de chance parce que ça faisait pile poil 9 ans à peu près que ça s'était passé. Et donc j'étais encore dans les délais où je pouvais porter plainte, aller en justice, ce que j'ai fait. Il m'a fallu quand même un an de psychanalyse, voire presque deux, pour me décider à porter plainte. Une fois prête, j'ai enclenché les choses et là, j'ai plus lâché le morceau. Et j'ai enfin été, à ce moment-là, reconnue victime. Et ça fait un peu de bien quand même, hein. Faut bien se le dire. Je dis un peu de bien, mais en fait, ça fait un grand bien. Voilà.
Léon, on range les jeux? On va aller manger?
Mineur au moment des faits, l'agresseur d'Amélie a été condamné à une amende et à un suivi psychiatrique d'un peu plus d'un an. Dans le langage courant, on parle souvent de pédophilie pour évoquer les violences sexuelles sur mineurs, mais c'est un abus de langage. La pédophilie, c'est une attirance sexuelle chronique pour les enfants prépubères, et en cas d'attirance pour les jeunes adolescents, il faudrait plutôt parler d'ébéphilie. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que le désir peut rester un fantasme, on peut très bien ne jamais passer à l'acte. Pédophile, pédocriminel, ça n'est pas du tout la même chose, nous explique Roland Coutenceau, psychiatre et psychocriminologue.
Il y a des sujets pédophiles au point de vue fantasmatique, qui n'ont soit jamais touché un enfant, soit qui, après un premier dérapage, vont s'en abstenir vitam aeternam. La maturité de la personnalité, la structure de la personnalité, la lucidité de la personnalité par rapport à la sexualité est quelque chose de très important. C'est un peu la même chose pour ceux qui ont une sexualité banale, être attiré par les hommes adultes et les femmes adultes. Certains violent. Donc au fond, leur problème à eux, c'est pas en soi le fantasme, c'est finalement le fait de déraper, le fait de glisser dans la transgression. Et là, on va trouver toujours, pour le dire de façon simple, soit une immaturité, quand je désire, je peux pas m'en empêcher. L'égocentrisme, je pense à moi et jamais je me suis demandé ce qui pouvait se passer dans la tête d'un enfant prépubère, ou peut-être par erreur, par translation, je pense que le prépubère pense comme moi, c'est-à-dire que le prépubère, avant 13 ans, a une sexualité comme la mienne. Donc ils ont une vue fausse, déformée, interprétative de façon subjective de ce qu'est la sexualité des enfants.
Les auteurs sont parfois eux-mêmes mineurs.
Oui, alors... On insiste aujourd'hui beaucoup sur l'âge à partir duquel, etc. C'est en soi problématique. Mais ce qui est le problème, c'est la dissymétrie dans le développement de l'être humain. Les gens qui sont dans la prépuberté, avant la manifestation de la puberté, avant 13 ans, ils ont un rapport à la sensualité qui peut passer par le toucher, par la caresse, etc. Mais ils ne sont pas dans le monde mental de post-13 ans. C'est, pour moi... ce qui fonde, on pourrait dire de façon pertinente, l'interdit social. C'est-à-dire qu'au fond, on pourrait dire quand tu es pubère, tu touches pas un prépubère. C'est une effraction parce que même si on a 13 ans, on propose à quelqu'un qui a 11 ans quelque chose qui est trop tôt, qui est inadapté, qui est potentiellement désorganisant, déstructurant, traumatisant.
Il y a même certains jeunes qui sont pubères mais qui sont pas encore prêts à... découvrir la sexualité.
Oui, bien sûr. Comme vous le dites, il y a des jeunes adolescents qui sont encore pas prêts. Et donc, quelque part, il y a quelque chose d'inapproprié, le mot est faible, mais problématique de les solliciter pour une sexualité, alors que celui qui est plus grand est, lui, dans un monde mental totalement différent.
Amélie, que vous avez entendue, est devenue éducatrice spécialisée. Elle accompagne des jeunes en situation de handicap mental, facilement influencés par tout ce qu'ils voient et entendent, et ils en entendent beaucoup. Et quand ils lui parlent spontanément de sexualité, elle leur explique la loi, les recadre, se sent parfois désarmée mais sent qu'il est important de parler. Elle redoute que ces jeunes particulièrement vulnérables ne soient abusés ou ne commettent eux-mêmes des violences. La prévention, c'est l'une des missions des CRIAFS, les centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. À Toulouse, j'ai pu assister à une formation autour d'un jeu de médiation intitulé Self-Life.
Donc c'est un outil de médiation. Vous verrez que sur les cases qui sont disposées dans ce jeu de loi, puisque ça ressemble à un jeu de loi, et bien finalement les items qui sont inscrits sont ni vrais ni faux. L'objectif, c'est de vous faire réagir et de susciter de l'échange entre vous et entre nous.
Des psychologues, des internes en psychiatrie et une future magistrate sont venus découvrir ce jeu qui facilite les échanges et permet d'aborder en groupe des sujets sensibles comme la transgression et la sexualité, deux composantes de la violence sexuelle.
Alors, est-ce que vous pouvez lire à voix haute et puis après faire passer peut-être la carte mais...
Quand je le la vois, j'ai plein d'idées qui me viennent.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Le terme d'idée, ça me fait penser à des projets. En fait, on peut se projeter dans une relation avec cette personne parce qu'il y a une attirance, pas forcément sexuelle ou physique, parce qu'on sait qu'il peut y avoir un contact qui se crée, parce que la personne paraît ouverte pour lancer une discussion ou autre ouais. chose. Donc se projeter avec quelqu'un.
Et alors, est-ce qu'on a un contrôle, justement, sur ce qui vient ?
Je sais pas si on a vraiment un contrôle de ce qu'on pense. Après, on peut contrôler ce qu'on en fait.
On parlait de contrôler les pensées, est-ce qu'on peut contrôler nos émotions aussi ?
Les émotions, moi comme ça je dirais non, enfin, c'est quelque chose qui est propre à nous-mêmes et elles arrivent sans même qu'on y prenne garde en fait.
Tu disais on ne peut pas les gérer, dans ma formation à l'ENM on travaille beaucoup sur la gestion des émotions et la manière dont on les laisse paraître, mais la manière dont elles nous touchent aussi à l'intérieur et qu'est-ce qu'on va en faire de cette émotion pour... garder une certaine neutralité, une objectivité, une impartialité. Donc c'est quelque chose qui se travaille avec du temps, de l'expérience.
On ne sait pas ou on oublie qu'une émotion, en fait, c'est un messager, ça vient nous renseigner sur un besoin. C'est peut-être le comportement qu'on va en faire derrière, qui peut être négatif ou positif.
Il y a des groupes de parole de jeunes pour pouvoir exprimer justement ce qu'ils ont ressenti sur certaines situations, pour éviter que les tensions montent, jusqu'à l'explosion, les crises de colère, voilà, qui peuvent survenir dans l'établissement scolaire, à la maison. Et des fois, rien que ça, ça règle le problème. Enfin, ça, d'avoir un espace de parole et d'aider les jeunes à identifier leurs émotions, ça évite que ça se reproduise, ça diminue les fréquences et l'intensité des crises.
J'ai envie de rajouter aussi, c'est important aussi de préciser aux personnes qu'une émotion, elle a une durée de vie dans le temps qui est très... Enfin, on dit 20-25 minutes, en fait. Ça peut être intéressant aussi parce qu'il y a des personnes qui ont du mal, justement, à contrôler leurs émotions et donc qui vont être dans la réaction immédiate. Et si on leur apprend voilà, que finalement, une émotion, elle dure 20-25 minutes et qu'il y a possibilité, en fait, de faire... C'est parce que je travaille aussi un petit peu en addictologie, en fait. De leur dire ça, en fait, ça leur permet de faire quelque chose pour compenser en attendant que cette émotion elle passe en fait. Donc ça les aide, je sais que j'ai eu pas mal de retours comme ça.
Ok, merci beaucoup. On arrête là pour le jeu.
Merci. Ambiance ludique le matin, plus studieuse l'après-midi face au rétroprojecteur. Les psychologues du CRIAFS partagent leur expérience avec les participants pour qu'ils puissent devenir animateurs à leur tour.
L'intérêt de toute façon dans les groupes à médiation et les dispositifs de prévention, c'est pas tant d'arriver à un consensus que d'avoir fait réfléchir tout le monde sur cette notion de consentement. Et c'est ça qui va faire sens et c'est ça qui va faire prévention d'une certaine manière. Parfois, on peut avoir un sentiment de frustration en se disant, voilà, bon, on n'est peut-être pas arrivé à une définition consensuelle ou peut-être que la loi n'a pas été énoncée par l'un des participants, peut-être que... Mais en réalité, ce qui était important, c'est qu'un amorce de réflexion se soit mis voilà, en mouvement et derrière cette réflexion, il est fort à parier qu'elle continue dans la tête de chacun une fois que le dispositif est terminé. On l'a vu d'ailleurs avec les étudiants avec lesquels on a travaillé en stand la plupart du temps. Ce qui est génial, ils passent dans le stand, hop, ils parlent de sexualité, de consentement, de etc. Ils vont manger et en fait, à table, ils continuent d'en parler. Voilà, bon, bah là, c'est gagné.
Le jeu existe en plusieurs versions, pour les étudiants, les parents d'adolescents et aussi pour les enfants. Avec les plus jeunes, souligne Cécile Miel, on n'est pas obligé de parler de sexe. L'objectif, c'est de leur donner des ressources, de les aider à développer leurs compétences psychosociales, comme la gestion des émotions et du stress ou l'empathie.
On va poser une situation qui va mettre en évidence une situation de stress, et puis on va leur demander, par exemple, de trouver quelle solution pour pouvoir se sortir de cette situation. Et donc ils vont pouvoir échanger sur, d'une part, les émotions que ça va générer, et puis sur les solutions qui sont acceptables pour pouvoir se sortir de la situation. Je pense aussi à une autre carte où on leur demande de dire non. Voilà, et donc ils doivent dire non sur différents tons, et donc ils se mettent en situation. Et c'est un moment qui est d'ailleurs assez humoristique, mais où on leur demande de dire non de façon très affirmée, au contraire de dire non de façon un peu plus timide, etc. Ce qui va en plus leur permettre de se rendre compte de la difficulté de s'affirmer parfois, notamment face à des personnes qu'on connaît bien, qu'on n'a pas envie de vexer. Et puis ça leur permet aussi de se mettre en scène, et a priori quand on se met en scène et qu'on se met en situation, ben, on apprend par la suite dans des situations similaires à pouvoir reproduire ce qu'on a appris voilà, quand on était en situation clinique, j'ai envie de dire.
Quand vous évoquez un sujet et que les réponses des enfants vous semblent inappropriées, c'est-à-dire qu'ils risquent de se mettre en danger ou ils risquent de faire du mal à l'autre, s'ils font effectivement ça dans la vraie vie, comment est-ce que vous les amenez à réfléchir là-dessus et à évoluer ?
On va susciter l'empathie. Ça, c'est notre premier outil, hein, j'ai envie de dire. D'abord, susciter l'empathie, c'est-à-dire demander à l'enfant ce qu'il lui semble que ça va générer chez la personne qui risque d'être concernée par le comportement néfaste. Voilà, à ton avis, qu'est-ce que ça peut lui faire à ton petit copain ou à ta copine ? Donc, on va essayer de le solliciter là-dessus. Si on voit que ça fonctionne pas, eh bien, on va s'appuyer sur les pairs, c'est-à-dire sur le groupe. Hein. C'est là que les dispositifs en groupe sont très riches, ce que les autres enfants, eux, vont pouvoir aider, vont pouvoir s'exprimer autour de ça. Et puis, s'il est nécessaire, et surtout, de toute façon, à la fin des échanges, eh bien, on va reposer le cadre de la loi en essayant de comprendre ensemble ce que veut dire cette loi. C'est-à-dire que énoncer la loi, c'est intéressant, c'est important, c'est fondamental, mais pouvoir la comprendre, c'est s'assurer de pouvoir l'intégrer.
Bon, non, en tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On est...
Ce soir, je vais suivre une conférence donnée par des psychologues et un sociologue du CRIAFS à la demande de l'association SOS Amitié. Parce que les bénévoles écoutants répondent parfois à des victimes de violences sexuelles, mais ils peuvent aussi recevoir les confidences de personnes sexuellement attirées par des enfants. Et dans ces cas-là, ils sont très embarrassés et ils se demandent ce qu'ils sont censés faire.
Bonjour. Oui, bonjour, je suis Chantal Fabre-Beauchamp. Je suis présidente de SOS Amitié Toulouse-Occitanie. C'est une de nos écoutantes lors d'un groupe de parole. Nous avons des groupes de parole une fois par mois. Et donc, qui a évoqué son malaise face à un appel d'un homme qui justement parlait de violence vis-à-vis des enfants. Donc elle a été extrêmement troublée et on s'est dit mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être faire quelque chose ou avoir une information ou une formation par rapport à ces violences, par rapport aux auteurs de violences, parce que SOS Amitié est une association d'écoute très généraliste. On reçoit toutes sortes d'appels, y compris ceci. Et on n'est pas toujours armé pour pouvoir écouter, parce que notre rôle c'est d'écouter, notre mission c'est d'écouter. Et une de nos psychologues de groupe de parole nous a parlé du CRIABS. Et donc on s'est mis en contact avec eux.
Bonsoir à tout le monde, merci d'être venus aussi nombreux.
Au fil de la soirée, les bénévoles ingurgitent quantité d'informations. Le sociologue Tristan Renard explique comment les faits divers et les mouvements sociaux ont fait évoluer les politiques pénales. La psychologue Sandra Da Silva souligne qu'il n'y a pas un profil type d'auteur de violences sexuelles, tout en s'efforçant de distinguer quelques catégories.
Je vous disais tout à l'heure, on est souvent avec des profils de personnes qui ne sont pas à l'aise en termes d'habileté sociale avec les adultes. Et ces personnes-là vont se retrouver beaucoup plus à l'aise avec les enfants, en fait. Au niveau affectif, au niveau de se sentir accepté par l'autre. Ce qui fait, par exemple, qu'on retrouve quand même pas mal de personnes chez ces auteurs-là, qui ont fait des choix de profession qui sont en concordance avec ça, avec cet amour de l'enfant, cette idéalisation. Donc, il n'y a pas que, mais des enseignants, des éducateurs, animateurs sportifs. Mais ce n'est pas des personnes forcément qui se disent « je fais ce choix de métier pour pouvoir agresser les enfants ». Ce n'est pas ça le chemin, c'est « je me sens bien avec les enfants, je me sens beaucoup plus acceptée dans ce monde-là que dans le monde des adultes ». Donc c'est par là, et ça devient des facteurs de risque pour eux, en fait, et d'opportunités. Mais en plus, comme c'est des personnes qui sont très à l'aise avec les enfants, c'est souvent des personnes à qui on fait confiance pour s'occuper d'enfants sans surveillance. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. J'espère que c'était clair.
Ici, ce qui m'intéressait, c'était de voir le côté de celui qui a glissé dans l'agression. Comme on l'a vu là, que soit, c'est n'importe qui, quoi. Ça peut être n'importe quel père, n'importe quel... Voilà, c'est pas un monstre, c'est pas forcément un monstre. Voilà. Et donc c'est ça qui m'intéressait ce soir, c'était d'avoir leur témoignage à eux qui côtoient des agresseurs. On a aussi de temps en temps des appels, c'est arrivé. Hein. Moi j'ai eu notamment quelqu'un, moi je suis dans le secret donc je vais pas tout dire, mais qui m'appelait, qui avait été incarcéré et qui comprenait pas. Et qui a mis très très longtemps avant de me dire, et j'ai surtout pas questionné bien sûr. Et pour moi ça avait été vraiment ce jour-là, la misère humaine, et un rôle éducatif en fait. J'étais un petit peu sortie de ce qu'on fait d'habitude à SOS, parce que pour moi il fallait, c'était un père de famille par rapport à ses enfants, et ça m'avait bouleversée. Et ça avait été chouette hein, ce qui s'était passé, mais je m'étais sortie là en disant mais oh, il voit pas, il ne voit pas les répercussions pour ses enfants. Et donc ce soir c'est un peu ça à titre personnel que je venais. Après au niveau d'SOS, bah oui, c'est pour être, je pense que c'est une formation continue, c'est vraiment important pour nous, pour pouvoir accueillir quoi qu'il se passe, quoi qu'on puisse entendre, accueillir la personne qui est derrière avec sa souffrance, parce que même si elle a pu faire des actes condamnables, la personne, elle est forcément en souffrance. Voilà. Donc c'est tout, je suis ravie. Ils ont vraiment très bien bossé. J'ai pris les papiers pour pouvoir après moi-même me former, toujours plus, peut-être en privé aussi, je verrai. Voilà.
Bonjour, vous êtes bien en communication avec la ligne d'appel pour les personnes majeures attirées sexuellement par les enfants. Nous vous informons.
Vous vous sentez troublé par les enfants ? Nous pouvons vous orienter vers une aide adaptée. C'est le texte de l'affiche présentant le numéro d'appel unique en cours d'expérimentation et que nous présente Anne-Hélène Moncagny, la présidente de la Fédération des CRIAFS.
On sait qu'il y a des personnes attirées sexuellement par les enfants dans la population générale. On sait que parmi ceux-là, beaucoup ne sont pas passés à l'acte, peut-être qu'ils ne passeront jamais à l'acte, mais pour ceux qui sont à risque de passer à l'acte, il faut absolument essayer d'intervenir à ce moment-là. Et donc les CRIAFS font déjà ce travail-là. Simplement, l'idée, c'est de donner une visibilité à ce numéro, à ces dispositifs, pour que les personnes concernées par la problématique sachent à qui s'adresser. Moi, je travaille en prison, je suis des auteurs de violences sexuelles, je suis des personnes qui présentent un trouble pédophile ou agressé des mineurs, et qui me disent qu'elles avaient très bien repéré qu'elles avaient un problème à cet endroit-là, mais qu'elles ne savaient pas à qui s'adresser et qu'elles n'ont pas pu être aidées. Bon, ça, c'est catastrophique quand on entend ça. Voilà. On se dit qu'il faut absolument agir avant. Alors, il y a la mise en place de ce dispositif qui est en expérimentation actuellement, donc le numéro, il existe. Par contre, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est la communication autour de ce numéro, parce qu'évidemment, il faut qu'il soit connu pour être utile.
Les personnes qui sont en demande d'aide peuvent appeler ce numéro-là. Qui leur répond ?
C'est le secrétaire du CRIAPS ou la secrétaire qui répond et qui transmet l'appel à un psychologue ou un psychiatre, un soignant qui évalue avec la personne l'attirance sexuelle problématique et qui ensuite oriente vers les soins adaptés.
Et les soins adaptés, qu'est-ce que c'est ?
Du coup, ça dépend du profil de la personne et de la problématique. Donc dans les cas de troubles pédophiliques sévères, on va proposer un traitement médicamenteux. Là, il faut que ce soit prescrit par un psychiatre. Et puis parfois aussi, on peut orienter vers des sexologues parce qu'il y a une problématique sexologique au devant de la scène. Ça peut être un suivi psychothérapeutique. Alors ça, c'est même quelque chose qu'on va proposer à tout le monde. Donc en fonction du profil de la personne, du moment où elle en est, de la gravité, de la sévérité, on va orienter, on va faire un peu du sur-mesure en fait en matière de soins.
Le numéro mis en place par les CRIAFS s'inspire en partie de l'initiative de Latifa Benari, fondatrice et présidente de l'association L'Ange Bleu.
Je viens voir Latifa.
Victime de viol pendant son enfance, Latifa a choisi de tendre la main aux pédophiles.
C'est un enfant.
Elle a mis en place une hotline et accueille chez elle des groupes de parole réunissant des victimes, des pédophiles abstinents et des auteurs, comme elle dit pudiquement.
Moi, je vis avec cette oreillette. Cette oreillette, elle fait partie de mon corps et je la garde même lorsque je conduis. Si je suis au volant, j'écoute l'appel, mais je ne réponds pas. Et je m'arrête s'il y a une urgence. Si je suis ici, je réponds automatiquement. Et à partir de 21h, je mets à la disposition de toutes les personnes cette hotline. L'écoute est fondamentale, mais l'écoute réactive, parce qu'il ne suffit pas de recueillir un témoignage, il faut aussi apporter des réponses. Alors parfois, je peux avoir 2 ou 3 appels qui vont durer 2 heures ou 3 heures, parfois 5 ou 6 qui vont durer jusqu'à 2h du matin. Je ne me rends même pas compte parfois, jusqu'à ce que mon mari descende et me dise « mais tu es toujours là ?»
La personne qui vous appelle et qui vous dit « j'ai vraiment peur de passer à l'acte », comment vous lui parlez? Qu'est-ce que vous lui répondez?
Quand ils ont cette attirance figée, c'est problématique et ça, c'est une souffrance aussi pour eux. Moi, je leur demande, c'est ceux-là à qui je demande de venir participer au groupe de parole. La rencontre avec les victimes les aide beaucoup parce qu'ils se projettent dans un passage à l'acte et aussi les conséquences d'un passage à l'acte. C'est vraiment une méthode qui constitue un garde-fou formidable. Selon les participants, je vais inviter ceux qui ont trouvé des solutions, qui s'en sortent très bien et qui ont des résultats positifs et avérés. Par exemple, le prochain groupe de parole, il y a un addict à la pédopornographie, un ex-addict qui s'en est sorti très bien, donc il va venir parce que je vais avoir 4 addict à la pornographie. Moi, je ne connaissais pas du tout cette population. J'ai découvert cette détresse et puis surtout l'importance de les aider au sevrage avant la case justice. Malheureusement, il y a cette loi qui est un obstacle, un frein, à savoir lorsque vous avez connaissance d'un délit, il faut le signaler. Et beaucoup ont très peur de sortir de l'ombre pour demander de l'aide. Moi, mon principe, c'est d'apporter une aide.
Comment est-ce que vous les aidez ?
Alors, c'est au cas par cas. Vous avez celui qui, après un seul groupe de parole ou une seule communication par email, va arrêter. Parce que ce qui l'intéressait, c'est juste libérer ce qu'on ressent. Sortir de cet enfermement, cette prison virtuelle.
L'essentiel, c'est de sortir du silence.
Tout à fait. C'est fondamental. C'est leur permettre de sortir du silence et d'exprimer sans être jugé.
La méthode de Latifa n'est pas très orthodoxe, mais elle a fait ses preuves. Par son intermédiaire, j'ai pu entrer en contact avec un homme que nous appellerons Bruno. Il a commis des attouchements sexuels sur ses 2 enfants. La voix que vous allez entendre n'est pas la sienne, mais ce sont bien ses mots.
J'ai commis ces actes sur ma fille dès son plus jeune âge. Elle avait 1 an. Ça se passait dans le noir de la chambre, quand je pensais qu'elle dormait. Maintenant, je sais que c'est marqué dans sa chair. À l'époque, je me berçais de l'illusion folle que c'était un bébé, qu'elle ne se souviendrait de rien, qu'elle n'était pas consciente. J'étais dans mon délire, dans mon déni. Je m'en suis rendu compte bien plus tard. Mais au quotidien, j'étais dans une relation incestuelle avec mes enfants. J'étais sincère dans l'amour que je leur portais. Mais chez moi, l'amour était mélangé à du désir, de la sexualité, et mes enfants étaient transformés en objets de désir. C'était une relation à sens unique. Je faisais un câlin à ma fille. Je lui faisais un bisou parce que ça me plaisait, parce que ma fille m'appartenait, parce que son corps m'appartenait. J'étais complètement perdu dans cette addiction qui était plus forte que moi. J'avais l'envie irrépressible de retourner dans la chambre de ma fille en me disant « c'est la dernière fois ». Je n'arrivais pas à m'en sortir. J'étais pétrifié de peur à l'idée de chercher de l'aide. Pour moi, aller chercher de l'aide, ça signifiait obligatoirement partir avec les menottes. Quand ma fille a grandi, j'ai reporté mes actes sur mon fils, plus jeune de 3 ans. Plus tard, quand on a commencé à parler d'un 3e enfant, une pensée m'a traversé l'esprit, pourvu que ce soit une fille. Ça a été comme un coup de poignard. Là, je me suis dit, ce n'est plus possible. Tu n'es plus un père trop tactile. Là, tu prémédites. Tu es en train de prévoir d'être un prédateur. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un thérapeute, j'ai pris rendez-vous et je lui ai tout déballé.
Au bout d'un mois et demi, le thérapeute prévient Bruno qu'il doit le signaler. Alors, le soir même, il dit tout à sa femme et veut se suicider.
Quand j'ai appelé Latifa, elle a tout de suite compris. Elle a demandé au thérapeute si, selon lui, en son âme et conscience, je représentais un danger pour les enfants. Et il a répondu non. Elle l'a convaincu de ne pas me jeter tout de suite en pâture à la justice, et je lui en suis infiniment reconnaissant. Si toute la machinerie judiciaire s'était mise en branle à ce moment-là, je pense que je n'aurais pas pu tenir, je me serais suicidé. J'ai eu un sursis. Au bout de quelques mois, j'ai eu une discussion avec mon ex-femme. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas vivre comme ça. Le mensonge, la trahison, la peur que quelqu'un nous dénonce, ça allait à l'encontre de tout ce en quoi elle croyait dans la vie. J'ai compris que je l'avais déjà précipité dans un gouffre sans fond. Je ne pouvais pas lui imposer ce cauchemar plus longtemps. Donc, j'ai fait un courrier au procureur.
Bruno n'est condamné qu'à 2 ans avec sursis et 3 ans d'obligation de soins. Il est également inscrit au fichier recensant les auteurs d'infractions sexuelles et il est déchu de son autorité parentale. Sa femme part à l'étranger avec ses enfants.
Après ma garde à vue, encore en pleine tempête, j'ai participé à un premier groupe de parole chez Latifa. Je raconte, je pleure, et quand je termine mon histoire, une femme que je n'avais pas remarquée lève la main et me dit « Bruno, ta fille, c'est moi. Mon père venait dans ma chambre pour me toucher. Je me souviens de tout. » Ça a été une douleur épouvantable pour moi. J'ai eu envie de me foutre en l'air. Depuis, cette femme est devenue une amie, et je reviens à l'Ange Bleu tous les mois. Avant, c'était pour me confronter à la douleur, aux conséquences de mes actes, pour me reconstruire. Maintenant, je mets mon récit au service des victimes. Elles peuvent éventuellement se défouler, me traiter de salopard. Je sais que c'est utile. Et je peux tendre la main à un gars sur la corde en lui disant « Voilà mon histoire, on peut t'aider à t'arrêter. C'est normal que tu n'y arrives pas seul, mais il faut que tu sois d'accord pour qu'on t'aide. Et moi, je reste vivant. Pour que mes enfants puissent m'envoyer me faire foutre quand ils seront grands, mon thérapeute m'a dit que si je me suicidais, j'enterrais définitivement mes enfants.
Des scandales ont éclaboussé l'Église catholique, l'éducation nationale, les clubs sportifs. On se rend compte que les lieux qui accueillent les enfants sont des environnements à risque. Il est utile d'y faire de la prévention, mais aussi du dépistage précoce, conclut le psychiatre Roland Coutenceau.
Dans des milieux à risque, il faut oser être curieux et s'interroger quand il y a des comportements particuliers, et puis même d'interpeller un sujet sans agressivité en disant bah, « Tiens, vous passez plus de temps avec les enfants que votre femme, ça nous étonne. » Voilà. Pour moi, le fait d'être vigilant, c'est pas être stigmatisant, c'est pas non plus de faire de l'interprétation à tout bout de champ, c'est pas non plus de se paniquer. Il faut juste oser en parler de façon assez explicite, mais avec tact, à l'enfant potentiellement victime, comme à l'auteur. Finalement, un truc qui aide beaucoup les gens qui potentiellement vont transgresser, c'est de leur montrer qu'on les a décodés, démasqués. Oui, c'est pas agressif, c'est-à-dire au fond... j'ai compris peut-être comment tu fonctionnes. Et de temps en temps, ça, c'est ça qui permet effectivement de les accompagner, de leur éviter de transgresser. Et un nombre de sujets pédophiles m'ont dit, si mon père m'avait parlé plus tôt, alors qu'il avait deviné que j'avais une sexualité particulière, c'est-à-dire qu'au fond, vous allez me dire c'est facile, mais ils se plaignent qu'on n'ait pas été assez direct avec eux.
Et ces personnes dont on comprend qu'elles sont attirées par les enfants, est-ce qu'il faut les éloigner tout de suite des enfants ou est-ce qu'on peut les aider autrement ?
Alors ça, c'est un sujet très difficile parce que si je disais à un milieu scolaire, voilà, pour moi, c'est un pédophile guéri ou stabilisé qui ne risque plus de passer à l'acte, ça ne va pas les rassurer totalement. Moi, je crois beaucoup, vous l'avez compris, à la régulation systémique. C'est-à-dire, je pense que si on dit à quelqu'un, on sait qui tu es, et donc on va t'observer sans t'agresser, dans ton intérêt bien compris, pour que tu dérives pas. Je pense que dans beaucoup de cas, en fonction de la des sujets normaux, d'intelligence normale, etc., c'est suffisant pour éviter le dérapage. Ceci étant, vous le voyez, après un passage à l'acte réel, et on peut le comprendre, les sociétés, la loi sociale, va se protéger par l'interdiction. On va dire... Cet homme a fait un acte sur un enfant et donc on va lui interdire désormais toute pratique professionnelle ou même d'activité de loisir dans le monde des enfants.
Cloisonné par l'effort d'être ce qu'on n'est pas. Y a-t-il une médecine, une science pour ce que l'on rejette? Y a-t-il une vitrine, une fente ou un bout de fenêtre? Personne se connaît mais tout le monde prétend connaître l'autre. Une erreur de la nature, à qui la faute? Fais le vide.
Pédophilie, comment protéger les enfants? C'est un grand reportage signé Aurélie Kiefer, réalisé par Annie Brault. On vient d'entendre le grand reportage d'Aurélie Kiefer, Pierre Verdrager. Donc vous êtes sociologue, chercheur associé donc à l'université Paris-Descartes. Quelle est la définition de la pédocriminalité et de quand date ce concept?
Alors, la définition de pédocriminalité n'est pas très facile à donner, et de même que pour la question de la pédophilie, hein, j'ai travaillé longuement sur ces questions-là, et j'ai considéré que le flou lié à ces concepts en présence était tout à fait déterminant pour les pensées. Ce que je peux vous dire, non pas vous donner une définition, mais vous parler de l'apparition de ce concept. Moi, quand j'ai publié en 2013 « L'enfant interdit », le concept de pédocriminalité circulait extrêmement peu dans des publications isolées, c'était quelque chose de tout à fait rare. Et j'ai fait quelques petites statistiques très récemment pour essayer de voir comment et quand ce concept a émergé dans le débat public. Et en fait, c'est tout à fait récent. On peut dater ça vraiment de toutes dernières années, 2-3 ans, où le concept non seulement commence à circuler, mais commence à s'imposer, voire à se substituer au concept de pédophilie. À tel point que certains intervieweurs qui m'ont posé les questions dans un passé très récent utilisaient directement la notion de pédocriminalité plutôt que celle de pédophilie, en considérant que la notion de pédophilie était inappropriée, voire appartenait à un temps résolu.
Donc il y a une différence fondamentale, selon vous, entre pédophilie et pédocriminalité?
C'est pas exactement ce que je dirais. Ce que je constate, c'est qu'il y a un usage qui s'est modifié dans la période récente, où la notion de pédocriminalité tend à se substituer à celle de pédophilie. Parce que cela traduit une transformation de l'ensemble de la société par rapport à ces questions-là, où les controverses qu'on avait pu avoir dans les années 70-80 sur la question pédophile, puisque dans ces années-là, on a essayé de défendre l'idée que la pédophilie était quelque chose d'acceptable, eh bien, tous ces débats-là se sont terminés. Et on a pris en compte de plus en plus la parole des victimes et les acteurs sociaux dans leur ensemble ont considéré que la notion de pédocriminalité devait s'imposer parce que elle inclut dans le concept même l'idée de crime.
Merci à vous. Martine Brousse, bonjour. Donc vous êtes la présidente de l'association La Voix de l'Enfant. Selon vous, faut-il fixer un seuil d'âge du consentement ?
Faut-il fixer un âge du consentement ? Toute la question est là. C'est un grand débat. Il a eu lieu avec la loi de 2018, août 2018. J'ai moi-même fait partie de la mission pluridisciplinaire auprès du Premier ministre. Nous avions pris une position de 15 ans. La Voix de l'Enfant a une position beaucoup plus, j'ai envie de dire, projetée pour l'avenir. Nous souhaiterions qu'il y ait une véritable réflexion et un travail, et j'aimerais bien en discuter justement avec Pierre Verdanger, sur une définition des violences commises à l'encontre des enfants, que trop souvent on lit et on augmente au regard des violences sexuelles commises à l'encontre des adultes. Nous pensons qu'il faut un droit spécifique, et une définition spécifique des violences sur enfants, ou mineurs, disons mineurs, parce que c'est enfants et adolescents. Il est donc impératif que demain, il y ait des mesures législatives prises à partir du mineur, de ce qu'est un mineur. À partir aussi, et dans le reportage, le docteur Coutançon en parle très bien de ces différences d'âge. C'est vrai que des violences sur une enfant de 6 ans par un adolescent ou un jeune adulte, ça n'a rien à voir avec une relation amoureuse d'une jeune et d'un jeune qui ont 17, 18, 19 ans. Donc, il faut véritablement que nous ayons une définition de ces violences au regard des enfants, des mineurs, et non plus au regard d'une législation pour adultes qui, avec des circonstances aggravantes, ce qui permettra justement de répondre aux attentes des victimes, c'est-à-dire j'avais 13 ans, mais je n'avais pas la maturité, car c'est souvent cela aussi que nous entendons en tant que partie civile dans nos affaires.
Et Pierre Verdrager, vous étiez interpellé sur votre profil de sociologue pour définir justement ce que vous pensez vous-même. Est-ce qu'il faut un seuil d'âge du consentement, selon vous?
Alors,
c'est l'une des clés.
Moi, je suis sociologue, donc je suis pas dans la prescription, je suis dans la description des choses, donc je n'ai pas, si vous voulez, d'arguments à vous donner pour caractériser ce que peut constituer une violence à l'égard des enfants. C'est pas mon rôle. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que je peux relayer, c'est les débats qui sont relatifs à cette question du consentement. Et à l'occasion de la parution du livre de Vanessa Springora, évidemment, ces questions de consentement sont intervenues extrêmement fort dans l'espace public. Donc ce qui est en question, à mon avis, ce qui va l'être dans les prochaines années ou les prochains mois, c'est de fixer ou pas cette question de consentement, parce que dans la loi actuelle, on n'a pas cette histoire de présomption de non-consentement au-dessous de la majorité sexuelle de 15 ans. Et un certain nombre d'acteurs souhaiteraient que cette présomption de non-consentement s'impose. Alors, on va peut-être pas rentrer dans les détails juridiques, mais ce qui a été refusé, c'est la présomption irréfragable de consentement qui a été retoquée. C'est ça qui a posé problème. Et je pense que le débat va s'orienter vers la question...
Excusez-moi, vous venez d'employer à l'instant un terme juridique. Est-ce que vous pourriez juste préciser ce que ça signifie?
Oui, c'est tout simplement le fait que vous pouvez pas apporter la preuve du contraire. Et en droit, on doit pouvoir le faire. Donc, ce qui est demandé, c'est qu'il y ait ce qui est demandé par certains acteurs, je ne parle pas en mon nom, c'est qu'il y ait une présomption simple de non-consentement qui inverse donc la charge de la preuve. C'est-à-dire que les victimes n'ont plus à prouver qu'elles étaient non-consentantes, mais ce sont les présumés coupables qui doivent prouver que la victime était consentante. Donc, c'est un changement important qui paraîtrait être sollicité par bien des associations.
Aurélie Kiefer.
Oui, question à Martine Brousse. Dans quelle mesure est-ce qu'on entend aujourd'hui la parole des enfants? Je sais que la Voix de l'Enfant avait initié le développement d'unités d'accueil pédiatrique justement pour pouvoir recueillir la parole des enfants victimes.
Oui, c'est toute la question qui vient d'être soulevée. C'est comment recueillons-nous cette parole des enfants, des mineurs? Qu'en faisons-nous? Et que trop souvent, on demande à la victime d'apporter les éléments de preuve de ce qu'elle révèle. Or, qu'est-ce que fait un enfant? Qu'est-ce que fait un mineur? Une mineure, quand il vient déposer cette parole, il révèle sa souffrance. Sa souffrance, c'est sa vérité. Mais cette vérité, sa vérité n'est pas forcément la vérité judiciaire. Et c'est aux adultes, non pas de demander à l'enfant d'apporter la preuve qu'il a été victime de viol, d'attouchement, d'agression sexuelle ou autre, ou de violence physique ou psychologique. C'est à nous les adultes. Moi je rappelle toujours qu'il faut dire que c'est aux adultes de protéger les enfants, c'est aux adultes d'aller chercher les éléments de preuve, et non pas à l'enfant, avec les peu d'arguments qu'il a, parce que souvent il n'a pas les mots, hein, il ne sait même pas. C'est très fort le témoignage dans le reportage de cette petite fille qui dit « mais je ne savais pas ce que c'était ». Le docteur Coutenceau le reprend aussi très bien. Hein. Il y a des âges et il y a des maturités, on ne sait pas ce qui se passe. C'est beaucoup plus tard qu'on découvre les conséquences de l'acte et surtout ce que c'était que cet acte d'adulte. Et donc, cette parole de l'enfant est dans nos unités, il y en a 64 aujourd'hui, pluridisciplinaires. D'abord, ce sont les adultes qui viennent à l'enfant. Les salles d'audition sont en pédiatrie, les enquêteurs viennent au chevet de l'enfant, les médecins sont au chevet de l'enfant, les magistrats sont au chevet de l'enfant, et ce n'est pas l'enfant qui vient au commissariat de police, ce n'est pas l'enfant qui vient à la gendarmerie. Nous souhaiterions la même chose pour toutes ces femmes victimes de violences qui doivent aller déposer dans un commissariat de police. Ce sont avant tout des victimes. Et il faut qu'on sache que cette parole que nous dépose un enfant, que nous dépose un adolescent ou une adolescente, hein, et bien c'est à nous de faire en sorte que l'on fasse émerger la manifestation de la vérité.
Aurélie Kiefer, une question peut-être pour Pierre Verdrager.
Oui, alors il y a de nombreux milieux qui sont touchés par des scandales de pédophilie, l'église, le monde littéraire, le cinéma, l'éducation, le monde du sport. Comment est-ce qu'ils réagissent à ces scandales ?
Écoutez, pour ce qui s'agit du scandale que j'ai le mieux étudié, que j'ai le mieux suivi, c'est-à-dire l'affaire Maznev, puisque j'en parle depuis longtemps, c'est un militant pédophile de la première heure, c'est, je pense que dans sa prose que la question pédophile est la mieux documentée. Gabriel Maznev donc, faisait donc l'apologie d'enfants, enfin de relations sexuelles avec des enfants de 8 ans dans Un galop d'enfer et dans toute sa littérature et imprégné par ça. Et la parution du consentement de Vanessa Springora a constitué un véritable tremblement de terre puisque des choses tout à fait inédites se sont produites, à commencer par le retrait des ouvrages de Gabriel Maznev de la vente. Chose d'ailleurs que Vanessa Springora désapprouve en tant qu'éditrice et intellectuelle, si vous voulez, elle est intervenue pour dire qu'elle n'était pas d'accord avec ça. Par ailleurs, il y a les bibliothèques qui ont retiré les ouvrages de leur rayonnage. Il y a des libraires qui ont refusé de vendre Maznev.
Pierre Verdrager, oui, donc vous avez beaucoup documenté aussi la manière dont, et aussi la manière dont Gabriel Maznev a utilisé les sciences humaines pour justifier la pédophilie, en faire même un acte qui soit censé rappeler l'âge d'or de la pensée athénienne et de la philosophie, utilisant et détournant les meilleurs penseurs et les meilleurs scientifiques de la pensée humaine pour justifier ces actes pédocriminels.
Oui, alors c'est pas simplement Gabriel Maznev. Hein, dans les années 70-80, quand on relit la littérature publiée, la littérature relative à la pédophilie publiée à cette époque-là, c'est quelque chose qui était couramment pratiqué dans tous les journaux, dans Libération bien sûr, dans Au Monde, dans beaucoup de publications pro-pédophiles. Le fait d'instrumentaliser le relativisme culturel, par exemple, avec l'idée qu'il y a une pluralité de cultures et que dans certaines cultures, les contacts sexuels entre les adultes et les enfants existent, pouvait servir d'appui argumentatif au fait qu'on puisse justifier dans notre propre société le fait que des relations de ce genre puissent exister.
Aurélie Kiefer ?
Oui, question à Martine Brousse, parce que aujourd'hui, dans l'opinion publique, le pédophile est assimilé à un monstre. Est-ce que aujourd'hui, la France est mûre pour la mise en place d'un numéro de téléphone qui s'adresse aux auteurs, aux personnes troublées par les enfants ?
Alors d'abord, vous venez de prononcer un mot très fort, à un monstre. Aucun être humain n'est un monstre. Il commet des actes monstrueux, mais c'est avant tout un être humain. Et je pense que, quels que soient les crimes commis, il faut qu'il soit traité comme tel. Je pense qu'en respectant cela, nous protégerons toujours plus les enfants et les mineurs. Alors, ce qui est intéressant dans cet échange que nous avons très riche, c'est que nous parlons de personnalités souvent extérieures à la famille. Or, il faut rappeler à vos auditeurs que 80% à peu près des violences sexuelles sont intrafamiliales. Elles sont ce qu'on appelle des relations incestueuses. Et le traitement aujourd'hui des relations incestueuses de ces auteurs d'inceste n'est pas toujours le même et rarement même le même que celui de ce qu'on pourrait appeler du pédophile, de cet homme qui est attiré par des enfants, des mineurs, des adolescents. Hein. Très souvent, le père ou l'auteur incestueux, lorsqu'il est découvert en tant que tel, il y a une rupture. C'est transgénérationnel, l'inceste. La pédophilie n'est pas, chez un être humain, de transgénérationnel. Donc ça aussi, c'est quand même important de le souligner. Et l'avenir nous obligera à travailler sur ces notions-là. Alors, ce numéro, il est très très important. Et nous travaillons avec le docteur et psychiatre Anne-Hélène Moncagny et nous pensons qu'il, comme il y a un 119 pour informer, signaler, même pour un doute, un enfant en danger, un mineur en danger, il est important que des hommes, parfois même des femmes, puissent appeler parce que tout d'un coup ils ressentent une attirance vers un enfant ou des enfants parce qu'ils ont peur d'un passage à l'acte. Le docteur Coutenceau souligne que il y a des pédophiles qui ne passeront jamais à l'acte, comme dans les familles, il y a des climats incestueux où il n'y aura jamais de passage à l'acte. Mais il est important justement de donner à ces personnes-là la possibilité d'appeler avant un passage à l'acte. Et donc, nous soutenons tout à fait le numéro et cette expérience qui est lancée avec cette association de CRIAS, parce qu'elle doit permettre de faire de la prévention. Parlons de plus en plus de prévention, prévention pour les mineurs victimes, prévention pour les auteurs.
Martine Brousse, en cas de passage à l'acte, est-ce que la prison vous semble une bonne réponse? Parce que vous avez entendu le témoignage de Bruno qui y a échappé et il est convaincu que s'il avait été condamné à de la prison, il se serait suicidé.
Alors la question est-il, faut-il passer par la case prison? Tout va dépendre de l'acte commis ou des actes commis. Tout va dépendre de la personnalité. Ce qui est sûr, c'est que la peine est essentielle. Il faut qu'une peine soit prononcée. Car un viol, c'est un crime. Et donc, il faut, pour que la victime se sente reconnue comme victime, il faut que la justice passe. Après, je pense que notre société aura à réfléchir sur le type d'incarcération des personnes condamnées pour tel ou tel acte de violence sexuelle sur un enfant. Je pense qu'on ne s'est pas encore arrêté sur cette question, comme l'ont fait par ailleurs d'autres pays, que ce soit la Suisse, que ce soit le Canada, que ce soit la Belgique ou autre. Je pense que nous aurons à nous interroger sur la peine de détention. La peine, la condamnation, la reconnaissance du crime doit être prononcée. Après, la façon dont doit être gérée la peine d'incarcération doit être réfléchie demain en France, car elle ne l'a pas encore été.
Merci Martine Brousse, présidente de La Voix de l'Enfant. Je précise que vous êtes co-auteur d'un ouvrage paru il y a quelques mois, co-signé avec Carole Bouquet, l'ouvrage qui s'appelle « Enfants maltraités, occupons-nous de ce qui ne nous regarde pas ». Merci Pierre Verdrager, sociologue, auteur de « L'enfant interdit, comment la pédophilie est devenue scandaleuse ». Merci bien sûr à Aurélie Kiefer qui a donc tourné ce grand reportage et le reportage réalisé par Annie Brault avec Alex Dang à la technique. Un grand merci à toute l'équipe de la documentation d'actualité de Radio France. Pédophilie, comment protéger les enfants, c'est un grand reportage à réécouter sur franceculture.fr.